RCF. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Place de l'Europe. Je suis Rémi Jabet, volontaire en service civique et au pôle média des jeunes européens de Strasbourg. Nous sommes de retour ce soir pour vous proposer une émission consacrée à l'Europe et nous allons parler du Parlement européen de Strasbourg. Alors permettez-moi de vous présenter l'équipe de ce soir. Théo Boucard, bonsoir.
Bonsoir Rémi, bonsoir à toutes et tous.
Vous êtes co-rédacteur en chef du journal eurocitoyen Le Torillon. Alors dans un instant, vous allez nous expliquer l'histoire du siège strasbourgeois du Parlement européen. Bonsoir Romain Thurieux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes volontaire en service civique au sein de l'association dans le cadre de la simulation du Parlement européen que les jeunes européens de Strasbourg organisera du 23 au 25 avril prochain. Ce soir, vous nous ferez un panorama des instances européennes dans chaque pays membre. Et enfin, Andrea Kamen est avec nous ce soir. Bonsoir Andrea.
Bonsoir Rémi, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes la présidente des jeunes européens de Strasbourg depuis maintenant janvier 2020. Et tout à l'heure, vous nous défendrez le Parlement européen de Strasbourg. Nous aurons également le plaisir d'écouter plus tard dans l'émission deux députés européens, Christophe Grudler et David Cormand, qui défendent le siège du Parlement européen de Strasbourg.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Cela fait maintenant depuis presque un an que les eurodéputés ne sont pas retournés au Parlement européen de Strasbourg lors des sessions plénières. Bien sûr, cela est dû en partie à cause de l'épidémie de Covid-19, mais est-ce démocratique? Cela respecte-t-il les traités européens? Car au-delà du symbole, c'est toute une économie qui tourne au ralenti à Strasbourg. C'est à ces questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce soir. Alors Théo Boucard, le Parlement européen est à Strasbourg depuis les origines des communautés européennes. Pouvez-vous retracer son histoire?
Alors l'histoire est même plus ancienne que ça. L'Assemblée commune de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, avait déjà installé son Assemblée commune dans la Maison de l'Europe à Strasbourg dès 1952, à côté du Conseil de l'Europe nouvellement créé. 6 ans plus tard, en 1958, l'Assemblée parlementaire de la Communauté économique européenne, nouvellement créée par l'un des traités de Rome, a également élu domicile à la Maison de l'Europe. Donc de 1958 à 1977, celle-ci, devenue entre-temps le Parlement européen, y a tenu ses séances plénières. En 1977, le nouveau Palais de l'Europe est inauguré. Accueillant aujourd'hui le Conseil de l'Europe, ce palais a également servi aux plénières du Parlement européen jusqu'à la toute fin du XXe siècle. C'est ainsi dans cet hémicycle du Palais de l'Europe que le président François Mitterrand a prononcé son très fameux discours « Le nationalisme, c'est la guerre ». Le choix de Strasbourg comme lieu de rassemblement du Parlement européen est donc le fruit d'une décision pragmatique. La CECA et la Communauté économique européenne ont été mises en place après la construction de la Maison de l'Europe, qui hébergeait initialement le Conseil de l'Europe. Cette décision s'inscrit également dans une perspective symbolique. La capitale alsacienne a longtemps été disputée entre la France et l'Allemagne, au prix parfois de guerres extrêmement meurtrières. La construction européenne étant intrinsèquement liée à la paix, il était symbolique de voir se développer une nouvelle Europe sur les cendres du nationalisme.
Et comment le siège du Parlement européen s'est-il durablement installé à Strasbourg?
Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, entérine définitivement le lieu de Strasbourg comme siège des séances plénières du Parlement européen, alors que le travail quotidien des commissions parlementaires restait à Bruxelles. Cette décision a ainsi formalisé une situation existante depuis plusieurs décennies et qui résulte d'un compromis entre les différents pays d'Europe occidentale. Alors que les principales institutions exécutives de l'intégration européenne se trouvaient à Bruxelles, comme la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, la Chambre d'expression des peuples européens est restée à Strasbourg, à la plus grande satisfaction de la France. Signe d'ancrage du Parlement européen dans la cité alsacienne, un nouveau bâtiment a été inauguré en 1999, le bâtiment Louise Weiss, situé en face du Palais de l'Europe, où est resté le Conseil de l'Europe.
Alors, nous parlons de l'histoire du Parlement européen à Strasbourg, mais quelles sont les perspectives futures?
Il faut avouer que l'avenir du Parlement européen à Strasbourg est remis en cause par la pandémie de Covid-19, ce qui donne le prétexte aux eurodéputés de rester bien au chaud à Bruxelles, une zone pourtant bien touchée par le coronavirus. Pourtant, la remise en cause du siège strasbourgeois est plus ancienne et plus profonde. Ces dernières années, des eurodéputés demandent régulièrement à ce que l'ensemble des activités parlementaires soient rapatriées dans la capitale belge afin de rationaliser le travail. Un débat qui ne risque pas de se calmer dans les prochaines années.
Merci Théo. Alors Théo, vous restez avec nous puisque vous avez interviewé le député européen Christophe Grudler qui ose se positionner publiquement pour le retour des sessions plénières à Strasbourg. On l'écoute.
Bonjour Christophe Grudler.
Bonjour.
Vous êtes député européen du groupe Renew, membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, mais vous êtes surtout l'un des plus fervents défenseurs du siège strasbourgeois du Parlement européen. Depuis plusieurs mois, en effet, vous vous exprimez régulièrement contre l'abandon du bâtiment Louise Weiss de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, nous avons le grand plaisir de nous entretenir avec vous durant 7 semaines de séances plénières du Parlement européen qui se passent une nouvelle fois à Bruxelles. Qu'est-ce que cela vous inspire, la non-venue des parlementaires européens à Strasbourg depuis bientôt un an, Monsieur Gaudelaire ?
Bah écoutez, ça m'inspire beaucoup de tristesse, voir l'hémicycle entièrement vide, ici à Strasbourg, voir les allées désertées, c'est un spectacle sinistre, et qui est aussi une grande gifle aux pères de l'Europe, ceux qui ont imaginé une Europe plus pacifique, plus fraternelle, dont Strasbourg était le symbole. Donc oui, donc beaucoup de tristesse aujourd'hui.
Alors, vous êtes l'un des eurodéputés les plus favorables au siège strasbourgeois du Parlement européen, mais au-delà des eurodéputés français, qui défend encore l'hémicycle de Strasbourg ?
Écoutez, beaucoup de monde défend l'hémicycle de Strasbourg, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais un peu contraint, on va dire, par les décisions de la présidence du Parlement européen, n'ose pas trop se manifester en ce moment et font avec les événements sous prétexte du Covid. Je dis souvent que qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Et en fait, le Covid est le prétexte en fait utilisé par les anti-Strasbourg pour privilégier Bruxelles. Ce qui est vraiment dommage, hein, et je dis pas ça du tout contre Bruxelles. Les pères de l'Europe, les fondateurs qui ont toujours fixé le siège unique du Parlement européen à Strasbourg depuis 1958, ils avaient un credo très très fort qui est que l'Europe, elle doit être polycentrique. Et si on met tout à Bruxelles, comme dirait Emmanuel Macron, on est foutu, hein, parce que s'il y a à la fois la présidence du Conseil européen, donc les États membres, s'il y a la Commission européenne, et s'il y a en plus le Parlement à Bruxelles, on n'est plus sur une Europe concentrique, on est sur une Europe égocentrique, tout basé à Bruxelles. Et c'est vraiment la négation de la diversité qui fait l'Union européenne, diversité des lieux, diversité des langues, et c'est comme ça que s'est construite l'Europe, et c'est comme ça qu'elle doit être respectée.
Alors, selon vous, quels sont les principaux arguments, justement, en faveur du siège strasbourgeois du Parlement européen ? Est-ce que l'argument des traités européens est-il suffisant pour pérenniser le siège à Strasbourg ?
Alors non, ce n'est pas suffisant et ça serait vraiment une erreur de se reposer dessus. Effectivement, les traités disent que le siège du Parlement européen, c'est Strasbourg. Mais si vous reposez là-dessus, vous allez laisser développer une propagande contraire qui fait qu'un jour, quelqu'un va se réveiller et va amender les traités ou va concevoir un nouveau traité où ça deviendra naturel de plus mettre Strasbourg. Donc ne pensons pas que les traités sont une protection définitive. Au contraire, c'est une protection temporaire qui doit donner le temps à l'action. L'action, c'est-à-dire que tous ceux qui croient à cette Europe polycentrique se bagarrent, se mobilisent et ne se laissent pas faire par ceux qui ont des intentions plus ou moins cachées en fait, d'en finir avec Strasbourg.
Alors vous parlez justement d'Europe polycentrique avec Strasbourg en tant que siège du Parlement européen, mais que représenterait une Europe égocentrique et donc un Parlement européen entièrement rapatrié à Bruxelles pour la démocratie européenne? Qu'est-ce que ça représenterait pour la démocratie européenne?
Ça représenterait une démocratie totalement hors sol, où dans une sorte de bulle bruxelloise, on déciderait du destin de tous les Européens. Ça sera encore une nouvelle fois la négation de l'Europe. Et je vous rappelle que le Parlement, c'est l'Europe des peuples. Hein, donc c'est pas l'Europe des élites, c'est pas la bulle. C'est l'Europe des peuples. Et l'Europe des peuples, elle doit être au plus près des gens. Alors, je vous donnerai quelques exemples, mais des institutions européennes, il y en a dans tous les pays. Parce que c'est la notion d'équilibre. Là, on vient d'ouvrir une agence en Roumanie sur une thématique spécifique de l'Union européenne. Donc, pratiquement tous les pays européens ont une agence de l'Union européenne parce que c'est une façon intelligente d'amener l'Europe au plus proche des gens. Alors évidemment, on peut dire ça a des coûts. Ce serait beaucoup plus simple si tout était à Bruxelles, toutes les agences, le Parlement. Finalement, ce serait beaucoup plus simple si on parlait tous en anglais. Pourquoi parler dans sa langue natale ? Écoutez, on va faire simple. Hein. Et avec ce genre de raisonnement simpliste, on arrive à perdre l'Europe. Donc il faut surtout pas faire ça. Il faut se bagarrer pour cette Europe polycentrique, pour cette Europe de la diversité, y compris de la diversité des territoires.
Alors vous avez également évoqué les propos d'Emmanuel Macron sur la défense du siège strasbourgeois du Parlement européen. Donc Emmanuel Macron qui s'est posé en grand défenseur de ce siège, mais quels ont été les résultats concrets jusqu'à présent de ces prises de position ?
Les résultats concrets, c'est que le président du Parlement européen sait qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et quand le président de la République française n'est pas content, Le président du Parlement européen ne se permet pas de faire tout ce qui lui passe par la tête. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'effet direct en raison de la pandémie. On a quand même des taux de contamination encore très très forts, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg d'ailleurs. D'ailleurs, plus à Bruxelles qu'à Strasbourg. Eh bien, donc voilà, on peut aussi imaginer que dans l'opinion publique, c'est peut-être pas le moment de prendre trop d'initiatives. Donc on a pris date pour le printemps, hein, donc mars ou avril. Pour imaginer un début de retour à Strasbourg. Bon, moi, mon souhait, c'est que d'ici là, il n'y ait que des séances plénières virtuelles, c'est-à-dire qu'ils ne se déroulent ni à Strasbourg ni à Bruxelles, où les parlementaires européens peuvent en fait voter en ligne, peuvent communiquer par visioconférence, mais qu'il n'y ait pas, en fait, sous prétexte de Covid, des sessions plénières organisées à Bruxelles.
Merci beaucoup, Monsieur Grudelaar, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Et nous venons d'écouter Christophe Grudelaar qui répondait aux questions de Théo Boucard. Cette interview a été réalisée durant la semaine de séance plénière de janvier. Alors Andrea, pourquoi l'activité parlementaire européenne est inconstitutionnelle depuis maintenant un an ?
Merci pour votre question Rémi, je vais tenter d'y répondre de manière claire et précise. Donc ce lundi 8 février, le premier jour de la session plénière du Parlement européen, nous Strasbourgeois avions l'habitude de recevoir en grande pompe nos concitoyens de toute l'Europe lors de ces sessions. C'était là le seul moment où notre beau bâtiment Louise Weiss recevait des eurodéputés. Je parle passé car cela fait un an que la plénière n'a pas eu lieu à Strasbourg. Bien entendu, nous avons accepté cette annulation puisque le pays s'est arrêté de tourner au printemps dernier, ce qui justifiait la réunion en plénière en version dématérialisée. Toutefois, quelle ne fut pas notre stupeur de voir le Parlement faire sa rentrée à Bruxelles et non pas à Strasbourg en septembre dernier. Malgré le soutien affiché par le président David Sassoli et la réitération de ses vœux de revoir le Parlement se réunir à Strasbourg, force est de constater que la volonté manque. Plus triste encore, que les partisans du siège unique à Bruxelles font tout pour maintenir ces situations de fait mises en place en réponse à la pandémie. Je parle ici de situations de fait car il s'agit d'un illégalisme. Je m'explique. L'article 341 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que le siège des institutions de l'Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres. C'est d'un commun accord et après une dure bataille que la France a arraché à ses homologues un accord pour fixer dans le protocole numéro 6, indexé au traité d'Amsterdam de 1997, un article unique. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les 12 périodes de session plénière mensuelle, y compris la session budgétaire. Les périodes de session plénière additionnelles se tiennent à Bruxelles. Cette disposition introduit dans le bloc de constitutionnalité européen la mention du siège à Strasbourg et a vocation à presque graver dans le marbre la situation. En effet, seule une décision unanime peut défaire ce qui a été décidé unanimement et on voit difficilement les 27 se mettre d'accord, un non français pouvant tout annuler. De plus, l'article 263 du même texte donne compétence à la Cour de contrôler les actes du Parlement européen au regard du droit de l'Union. Si le refus de faire revenir les plénières à Strasbourg persiste, sans raison supplémentaire, il est possible à la Cour de se prononcer sur ce refus au regard du protocole numéro 6 et conclure à son illégalité. Lorsqu'on pense au recours exercé contre le Parlement par la France en 2017, lorsqu'il a adopté son budget à Bruxelles au lieu de Strasbourg, on peut s'étonner de l'immobilisme du gouvernement actuel. Pandémie oblige, Strasbourg doit encore prendre son mal en patience. Mais pour combien de temps ?
Et on espère que la situation va s'améliorer afin que les députés européens reviennent à Strasbourg. Merci beaucoup, Andrea. Alors, tout à l'heure, nous avons entendu le témoignage de Christophe Grudelaar. C'est maintenant au tour de David Cormand, député européen sur la liste des Verts, de nous donner son point de vue sur cette question. Strasbourg ou Bruxelles, où doit être le siège du Parlement européen ? Gwen Taburet l'a rencontré.
Bonjour, David Cormand.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, merci de nous accorder cette interview. Vous êtes député européen depuis 2019 sur la liste des Verts et également chef de la délégation des eurodéputés verts français. Avant cela, vous étiez secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts entre 2016 et 2019. Et au Parlement européen, désormais, vous êtes membre des commissions des budgets et du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas votre travail de parlementaire en tant que tel, mais bien votre statut de député européen. Nous enregistrons en effet cette interview en pleine séance plénière du mois de janvier et nous constatons encore ce mois-ci l'absence des eurodéputés à Strasbourg. Alors, Monsieur Cormand, où doit être le siège du Parlement européen selon vous et que vous inspire l'absence des eurodéputés dans l'hémicycle strasbourgeois depuis des mois ?
Alors la présence, l'endroit où doit être présent le siège du Parlement européen, c'est dans les traités, mais on y reviendra peut-être, c'est pas qu'une question de traité, c'est à Strasbourg. Et du fait effectivement de la crise sanitaire, il a été considéré qu'il était dangereux, problématique, de faire converger vers Strasbourg des parlementaires européens qui viennent de toute l'Europe et qui retournent ensuite dans leur pays accompagnés de tout ou partie de leurs équipes. Donc ça représente un afflux de concentration dans un lieu clos pendant quelques jours et un redispatchage ensuite. Après, cet argument-là, mais peut-être on y reviendra, il concerne aussi l'hémicycle à Bruxelles. J'ajoute que depuis le début de la crise sanitaire, en réalité, les parlementaires se réunissent physiquement assez peu au même endroit, puisqu'on a des moyens techniques qui ont été mis en œuvre pour débattre et aussi pour voter à distance. Et donc tous les parlementaires ne se réunissent pas au même endroit. Donc le fait de ne pas réunir le Parlement à Strasbourg est le fruit, à mon avis, pas uniquement de considérations sanitaires, mais aussi de considérations plus politiques.
D'accord. Et donc, selon vous, quelles sont les différentes raisons qui peuvent expliquer que la majorité des députés européens préfèrent justement rester à Bruxelles ? Et n'est-ce pas une volonté de réduire l'impact environnemental du Parlement européen ?
Alors, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. D'abord, les parlementaires européens, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. C'est-à-dire qu'il y en a une partie qui, pour exercer leur mandat, ont choisi, quel que soit leur pays d'origine, d'habiter à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, il y a aussi des activités parlementaires, parce qu'il faut comprendre que le Parlement officiel, il est domicilié à Strasbourg, mais dans les faits, il y a deux hémicycles. Il y a un hémicycle à Strasbourg, mais il y a aussi un hémicycle à Bruxelles, où se déroule un certain nombre d'assemblées plénières. Je le précise parce que ce n'est pas forcément clair dans l'esprit de tous les citoyennes et les citoyens qui nous écoutent. Et donc, il y a un nombre précis de sessions qui ont lieu à l'adresse officielle du Parlement qui est à Strasbourg. De mémoire, c'est 12 par an en principe, mais toutes les autres sessions parlementaires, elles se tiennent à Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y a aussi la domiciliation de la Commission européenne. Il y a un certain nombre d'administrations. Et donc, pour différentes raisons pratiques, un certain nombre de parlementaires choisissent d'habiter à Bruxelles pour tout ça. Donc il y a des habitudes qui se sont prises, assez centralisatrices d'ailleurs, de dire bah, c'est plus simple si c'est au même endroit à Bruxelles. Mais ce n'est pas l'avis de tous les parlementaires. Et là, il y a une question politique, à mon avis, qui est fondamentale. C'est est-ce qu'on considère que la construction européenne, c'est une construction uniquement technocratique. Et donc, il faut aller uniquement dans l'aspect logistique, technique des choses. Et donc, c'est plus simple si tout est au même endroit. Ou est-ce qu'on considère, et moi c'est mon cas, que l'Union européenne, la construction européenne, c'est une construction politique. Et une construction politique, elle a sédimenté des usages liés à notre histoire et liés à la géographie. Et ce n'est pas un hasard si on a mis le symbole du débat démocratique européen à Strasbourg. C'est parce que Strasbourg, c'est aussi la mémoire de conflictualité, notamment entre deux pays importants de l'Union européenne, que sont l'Allemagne et la France, et le fait de remplacer quelque part symboliquement ce qui était une ligne de front par une enceinte parlementaire où on débat démocratiquement justement pour éviter les conflits, ça a une charge symbolique et historique importante. Et moi, je regrette qu'il y ait une tentation quelque part de réduire la construction européenne à un simple sujet technique. Vous me dites, oui, l'empreinte écologique, d'ailleurs, il y a eu des études contradictoires là-dessus, qui disent notamment que l'empreinte écologique du déroulement des opérations à Bruxelles, elle n'est pas forcément plus avantageuse qu'à Strasbourg. Mais au-delà des aspects empreinte écologique, il y a quand même une question symbolique et politique qu'il ne faut pas négliger.
On a pu aussi voir dans différents médias que votre parti n'a pas toujours été aussi enclin à défendre le siège strasbourgeois du Parlement européen. Et quelles sont les raisons vraiment qui vous ont fait changer d'avis ? Et est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un peu parce que Strasbourg a décidé d'élire en mai dernier une maire écologiste, en l'occurrence Jeanne Barzéguian ?
Alors, il y a les deux. D'abord, la position des Verts français, depuis toujours, c'est de défendre un siège, un seul siège pour le Parlement. Sans dire si c'est Bruxelles ou Strasbourg. La grande majorité des députés verts français au Parlement, ils sont pour que ce soit à Strasbourg. Après, toutes les délégations françaises, quel que soit leur parti politique, c'est vrai pour les Verts, mais pas seulement, sont confrontées à d'autres députés européens d'autres pays qui, eux, considéreraient que ça serait plus pratique que tout se fasse à Bruxelles. Mais ce n'est pas l'avis des Verts, ce n'est pas l'avis des députés verts français. Et il y a un deuxième élément, et vous avez raison de le souligner, qui est un argument de force pour nous, les Verts français, quand on discute avec nos collègues verts d'autres pays européens, c'est de dire que désormais, Strasbourg a une maire verte, une maire écologiste. Et que donc, il y a là aussi une charge symbolique. Le fait que la capitale parlementaire de l'Union européenne, qu'est Strasbourg, soit désormais administrée par une maire verte, une maire écologiste, c'est aussi quelque chose qui dessine une perspective des mutations, des modifications, des transformations qu'on souhaite au niveau de l'Union européenne.
Et est-ce que vous soutenez l'idée qu'un Parlement européen double, donc l'un à Bruxelles et l'autre à Strasbourg, empêche l'institution d'être réellement efficace au quotidien et de surcroît augmente l'euroscepticisme en Europe ?
Alors je crois, non seulement je ne crois pas ça, je ne crois pas du tout que le fait qu'il y ait deux sièges pose problème, je pense même que si tout devait être concentré à Bruxelles, ça serait extrêmement grave pour l'avenir de l'Union européenne. Pour deux raisons. La première, c'est que ça serait alimenter l'idée que l'Union européenne copie cette espèce de centralisme technocratique qu'on voit déjà, qui implique d'ailleurs une certaine forme de mondialisation, où on concentre aux mêmes endroits tous les pouvoirs. Les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers, les pouvoirs culturels. Or, en tant qu'écologiste, et je pense qu'il n'y a pas que les écologistes qui pensent ça, il y a beaucoup de gens qui sont attachés au fait que les lieux de pouvoir soient partagés. Et l'histoire de la construction de l'Union européenne, unie dans la diversité, ce n'est pas seulement la question de Strasbourg, ce n'est pas la question de protéger notre petit pré carré à Strasbourg, c'est une question de lutter contre l'idée que l'avenir de la construction européenne, c'est centraliser les pouvoirs à un même endroit et refuser une forme de diversité et de partage des responsabilités, ce sur quoi s'est construite à l'origine la construction européenne. Et le deuxième argument, c'est que je crois que si un jour, je crois que c'est assez peu crédible, mais si un jour on devait être dans la situation où le Parlement de Strasbourg serait soit supprimé, soit complètement, amoindri, ça poserait, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, la volonté des Françaises et Français de rester dans l'Union. Aujourd'hui, pour des raisons qui peuvent s'entendre, mais aussi pour des mauvaises raisons, les citoyennes et les citoyens français sont parmi les citoyens européens les plus eurosceptiques. Les études d'opinion montrent ça. S'il devait y avoir ce lien qui se distendait par rapport au Parlement à Strasbourg, s'il devait se faire, je pense qu'il y aurait des conséquences extrêmement graves. Et moi, j'ai compris ce que j'essaie d'expliquer à mes collègues d'autres pays européens en disant « Attention, vous savez, les équilibres qui se sont faits, encore une fois, les fruits de l'histoire sont ce qu'ils sont. » Et essayer de passer en force pour des raisons technocratiques, surtout qu'avec les progrès maintenant de communication à distance, franchement, ça pose aucun problème d'avoir des réunions à distance, etc. Il y aurait des conséquences politiques qui seraient pas neutres.
Eh bien, merci beaucoup, David Cormand, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment un échange merci très intéressant.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Roman, dans un instant, vous nous parlerez de la présence de l'Union européenne au travers de ses agences européennes. Mais nous allons faire une courte pause musicale avec Cocoon. À tout de suite. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. Now with all the drugs she takes, she can't recognize my face.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Bonsoir à vous, nous poursuivons notre émission consacrée au Parlement européen de Strasbourg. Alors Roman, ce soir vous nous parlez des agences européennes implantées dans les différents pays de l'UE.
Oui, c'est bien ça. Donc, face au débat du siège unique du Parlement européen, c'est bien la nécessité d'une dimension polycentrique de l'Europe que défendent nos députés. C'est cette Europe de la diversité qui permet d'avoir plus de démocratie en rapprochant les peuples et un meilleur équilibre dans la répartition des pouvoirs et des responsabilités. C'est bien en évitant une centralisation des activités à Bruxelles que l'on préserve l'héritage historique de l'Europe. Cependant, ce polycentrisme européen ne se réduit pas à la seule question du siège des institutions européennes, mais concerne également l'existence d'une multitude d'agences qui touchent le quotidien de tous les citoyens.
Et pourquoi de telles agences ont-elles été créées ?
Donc historiquement, l'élargissement de l'Union européenne et l'accroissement progressif de ses compétences, notamment avec la création du marché unique dans les années 90, a poussé la Commission européenne à légiférer dans des domaines de plus en plus techniques et spécifiques, ce qui a favorisé la création d'agences spécialisées. Mais c'est aussi en raison de crises majeures qui sont survenues notamment en matière environnementale, de santé ou bien encore de sécurité avec la crise migratoire en 2015 qui ont justifié un tel besoin d'expertise. Il existe aujourd'hui de nombreuses agences européennes créées dans différents pays de l'Union. En Pologne, par exemple, se trouve l'agence Frontex qui a pour rôle d'aider les États membres de l'Union et les pays associés à l'espace Schengen à protéger les frontières extérieures de l'espace de libre circulation. Aux Pays-Bas ont été créés Europol en matière d'entraide policière et Eurojust pour le judiciaire. Récemment, en décembre dernier, a été annoncé que le futur centre européen pour la cybersécurité s'installera en Roumanie. L'Europe n'est donc pas seulement ancrée à Bruxelles ou à Strasbourg, mais elle est aussi très présente sur tout le continent. Le fonctionnement institutionnel de l'Union européenne est donc bien décentralisé.
Merci Romane, mais comment fonctionnent ces agences européennes ?
Ces agences sont bien des organismes de droit public et disposent bien d'une personnalité juridique propre et distincte des institutions européennes principales. Elles ont pour fonction d'exécuter des tâches spécifiques dans le cadre de la législation de l'Union de façon plus efficace. Elles sont de véritables auxiliaires de la Commission européenne et donc indispensables au fonctionnement de l'Union. Mais certains s'inquiètent d'une agenciarisation, voire un démembrement du système institutionnel européen en raison du développement rapide de ces agences. Enfin, afin de préserver ce polycentrisme européen, ces agences ne devraient pas être utilisées pour valoriser les intérêts nationaux d'un pays, mais il serait plus souhaitable de renforcer la vision européenne qu'elles doivent représenter.
Merci beaucoup, Romane. Alors, notre émission touche déjà à sa fin. Un grand merci à vous, Andrea, Théo et Romane, pour vos chroniques très passionnantes. Je remercie également Christophe Grudler et David Cormand d'avoir accepté nos demandes d'interview. L'intégralité des interviews sont disponibles sur notre site internet jeune-européen-strasbourg.eu. Cette émission vous était présentée par l'association transpartisane des jeunes européens de Strasbourg. Nous sommes partisans pour une Europe plus sociale, plus démocratique et à terme plus fédérale. Votre prochain numéro de Place de l'Europe se tiendra lundi prochain. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, le 8 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne soirée à vous.